خيال ميدان خوان خوان سون دوام نعيش وجيران احنا ولاد اليوم صفو القلوب وزيدوا القدام
Il est vrai que nos aïeux sans trouver d'autres issues Les yeux droits dans les yeux se sont tirés dessus C'était il y a longtemps Mais si les deux blessures qui guérissent au printemps Celle-là l'a dendue Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer Un autre rendez-vous Une histoire à inventer Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer Un autre rendez-vous Une histoire à inventer
Le 30 juin 2023, l'équipe de la 4ACG, une association des anciennes appelées en Algérie et leurs amis contre la guerre, était à Lille-sur-Tarn pour rencontrer le chanteur HK. Lors du festival Les Arséniques, c'est ce dialogue entre Rémi Serre et HK pendant les balances avant le concert que nous vous proposons d'écouter maintenant.
Déjà qu'hier, on s'est tiré dessus pour me dire ta chanson.
Ah oui, quand même.
Parce qu'on vient de
À notre rendez-vous.
À notre rendez-vous, on les yeux dans les yeux, on vous tirait dessus.
Pouvoir enfin tourner la page, les yeux ouverts, loin des tambours, sans haine et sans tabou. Et pourquoi pas, soyons fous, avec amour. Y a-t-il un nous Que l'on puisse
Vraiment, on assiste aux gens qui pensent que je vais garder la haine et je vais utiliser l'arabe parce que là, je n'est pas beau. Hein. Nous, on essaye de faire le contraire, de que tous les hommes sont égaux et que voilà, quand même, on a des choses à faire. Pardon, les coups. Voilà, un gros mot.
Ben, bravo.
Voilà, aujourd'hui, on a eu l'Assemblée Générale Albi, on était une centaine. Ça dure
Venu de toute la France
Venu de toute la France, mais Bretagne. Et puis dans les régions, chacun fait un peu un travail régional. Et alors maintenant, les anciens d'Algérie disent « Ouais, il manque avec une cam, ils ont tous en moyenne de 85 ans. »
Eh oui, c'est ça.
Et alors, on a ouvert la porte aux amis, et on a mis même un président ami. Voilà. C'est le premier président qui n'a pas fait la guerre. Et voilà, il essaye, ou il essaye, ou il fait,
ouais, sais pas. C'est ça.
Il fait ce
qu'il peut.
Le rôle de président. Voilà.
Bah, voilà. C'est un bel ambassadeur.
Je t'ai tout dit. Alors, si tu peux nous faire connaître dans tes trucs.
Bah.
J'ai dit, on va commencer par ça, là. La 4ACG. Je vais vous expliquer ce que c'est la 4ACG. 4ACG, parce que ancien d'Algérie, appelé et ami.
Contre
et contre la guerre.
Ah, ok.
En fait, c'est A-A-A-A-C-G.
Voilà, on t'a tout dit, là.
Bah, moi, après, aider à faire connaître, je ne sais pas trop, mais non, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on
on défend les... On travaille dans le même sens.
Ouais, on travaille dans le même sens, on défend les mêmes idées, on essaie de se battre parfois contre l'air du temps qui est compliqué. Quoi.
Qui est contre nous,
c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et on est avec pareil, hein, on est pareil. Avec
on n'est pas nombreux.
Moi, je pense que si on est nombreux à avoir cette idée-là, à avoir cette vision-là, mais comme on disait, l'air du temps, c'est-à-dire que nous, par exemple, la chanson dont tu parles, oui. À notre rendez-vous, moi, j'aurais aimé, mais bon, je suis pas objectif, mais moi, j'aurais aimé qu'elle soit sur toutes les radios, parce que je pense que ce message-là, il est important,
oui,
c'est
oui,
le message
oui,
de réconciliation, d'amitié. Mais ça, je veux dire, les médias, les radios, ils sont à des années-lumière de ça. Nous, on avait des attachés de presse pour leur dire. Bah, en plus, c'est arrivé à un moment où il y avait des polémiques. Bon, il y en a tout le temps. Mais où elle disait, mais c'est important de faire en sorte que dans cette société fissurée, fracturée, de mettre en valeur tout ce qui peut essayer de nous rassembler, nous réconcilier, même nous réconcilier avec nous-mêmes. Mais bon, ils n'en veulent pas. Mais je pense qu'on est nombreux. Je pense vraiment qu'on est nombreux. C'est que les grands moyens de pouvoir se rassembler, pouvoir juste développer cette idée et la rendre, j'allais dire, visible, majoritaire, bon, on n'a pas ces moyens-là, c'est juste ça.
On est nombreux, on est du 3 ou 4%.
Moi, non. Bah, déjà, pour commencer, ce serait bien. Déjà, dans si avec ce qu'on nous dit à la télé, matin, midi et soir, enfin, si tu allumes la télé, si tu lis les journaux, si tu allumes la radio, donc si avec tout ce qu'on nous dit, moi je dis c'est de la propagande quoi, pour nous faire nous diviser, nous déchirer, pour dire qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on ne peut pas être heureux ensemble, qu'on ne peut pas construire des choses ensemble, si avec tout ça, matin, midi et soir, on arrive déjà à être 4%, c'est que déjà c'est un bon commencement. Mais moi je pense qu'on est plus. Et comme tu dis, la nature humaine, voilà. Quand on te donne l'ordre de te tirer dessus, bah, tu te tires dessus. Quand soit tu penses qu'il faut obéir aux ordres, ou que tu réfléchis pas, ou que tu n'es pas dans une situation qui permet de.
Tu ne réfléchis pas, ça c'est bien. Il y a quand même une trentaine de personnes qui ont refusé de faire la guerre. Ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est eux qui ont eu raison. Parce que si personne n'y était allé, si le soldat ne va pas à la guerre, parce que ceux qui la commandent, ils sont à l'abri. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et alors, ouais. ils conditionnent de chaque côté pour qu'on se tire dessus. Et c'est ça qu'il faudrait inculquer aux gens. Nous allons dans les écoles des fois. Et nous leur disons, surtout n'allez pas à la guerre, parce qu'ils n'ont pas le quatrième élément. Ils ne peuvent pas faire la guerre.
Rémi fait ici référence à l'un des concepts clés de la 4ACG, sur les quatre piliers de la guerre, développé par Georges Trailloux, l'un des fondateurs de l'association, aujourd'hui décédé.
Il faudrait que tu me copies avant de mourir, là, parce que tu parles de mourir. Dans ce que tu dis. Hein? Avant de mourir, tu parles souvent de mourir. Il faudrait que tu me copies, là, que tu me l'envoies. Les quatre trucs, qu'est-ce que c'est une guerre?
Ah, oui,
hein. Ah, oui,
je passe là-dessus, capable.
Merci.
Merci,
les quatre.
Qu'est-ce que la guerre, voilà? Qu'est-ce que la guerre?
La guerre, c'est comme cette table. Il y a quatre pieds, mais là, c'est pareil. Il y a ceux qui la décident, et ça c'est les politiques. Et alors pourquoi? Pour opportunisme, pour garder le pouvoir, pour l'influence, pour...
agrandir le pays.
Pour gagner du terrain, pour coloniser, pour tout ça. C'est les politiques, c'est pour leur pomme en fait. Ils font semblant que c'est pour le bien du pays, mais c'est bon. Ça c'est le premier truc quoi. Le deuxième, c'est la finance. Parce que pendant les guerres, c'est là que se font les fortunes, c'est là, d'ailleurs, Jaurès disait que la finance à la guerre, c'est que, comme la nuit est à l'orange. Et alors, c'est la finance, c'est les gens qui vendent du matériel, qui fabriquent des armes, qui vendent des armes. C'est incroyable le commerce qui s'est fait pendant la guerre. Et là, les fortunes, elles vont. Ils font partie de ceux qui mènent, qui décident. Parce que là, c'est le pognon. Le troisième, c'est l'armée ou les états-majors. Parce que, bon, d'abord, ils savent faire que ça. Et puis, un type qui, maintenant, en temps de paix, pour un capitaine, pour arriver à colonel ou général, il faut. Pendant la guerre, tu montes en un an ou deux, tu peux être. Et puis, c'est leur vie, ils voient que ça. Quoi. Ils ont été formés pour ça et c'est tout. Quoi.
C'est leur métier.
Et ils ont une sacrée influence aussi, les états-majors, on l'a vu. Et puis, ça, c'est des gens qui ont des intérêts. Mais après, pour faire une guerre, mais il faut des soldats. Et bon, les soldats, ils n'ont aucun intérêt à faire la guerre. Qu'est-ce que vous, qu'un ouvrier français ou un paysan français, il allait se battre contre un paysan, un ouvrier allemand ou... D'ailleurs, c'est ce que disait Jaurès une fois de plus, c'est qu'il fallait faire la...
L'international.
Réunir le prolétariat et puis on n'en a rien à foutre de la guerre. Il n'y a aucun intérêt. Et alors, pour les faire marcher... C'est pas, ils n'ont rien à gagner. Alors on a inventé ce que moi j'appelle le patriotisme, mais malgré que le patriotisme, ça a des bons côtés, puis ça c'était bien pris. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait. On gonfle des gens pour se faire trouver la peau pour les trois autres. Et alors on a inventé la Marseillaise, n'en parlons pas. L'hymne le plus guerrier et le plus sanguinaire du monde. On a inventé le culte du drapeau, on a inventé les médailles, on a inventé les hymnes nationaux, les cérémonies, le monument aux morts et tout le bazar, la glorification de la guerre et tout. On, le peuple, il marche, il se fait avoir comme ça. C'est ça, on l'utilise comme ça. Et bon, ça ne plaît pas à tout le monde de ça, mais bon, moi je ne dis pas que le patriotisme, c'est mauvais. Mais
c'est mauvais, mais tu es citoyen du monde quand même.
Ça dépend de ce que l'on fait.
Tu n'es plus patriote, tu n'es plus français.
Eh ben voilà.
Il est déjà la carte de citoyen.
Citoyen du monde.
Ouais.
On peut l'avoir.
C'est sa carte d'identité.
Un autre rendez-vous, une histoire à inventer. Je donne un jour. شوخ يا الميدان خوا خوا نساو العداوة ونعيشو جنان حنا ولاد اليوم صفو القلوب ونزيدو
الكتان
دونك il faut dire aux gens n'obéissez pas. C'est pas bien de dire ça, mais faut pas obéir.
J'irai sur les routes de France, de Bretagne aux Provence, et je dirai aux gens refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre. Voilà. Mais oui, oui, on l'a chanté, nous, le
déserteur. Bon, et vous, alors, comment vous allez arriver là? Parce que, quand même, nous, moi, je t'ai tout dit, là.
Comment on en est arrivé là? Ici, là, aujourd'hui, et ou là?
Aujourd'hui, peu importe.
À la chanson.
Oh, bah, moi, je suis un enfant de Roubaix, je suis né à Roubaix, fils d'immigré algérien. Puis j'ai grandi dans cette ville-là, donc c'est, bon, Roubaix, la ville la plus pauvre de France. C'est une ville... où il y a beaucoup une grande richesse chez les gens, une grande richesse de solidarité. Ben voilà, quand les gens sont dans la misère, ben ils s'entraident. Et c'est vrai que moi, dans cette ville-là, voilà, on s'aimait, quoi. On s'aimait, on était tous différents, on avait nos histoires différentes. Et donc, ben, quand tu grandis, tu as envie de garder ça, parce que tu dis que c'était beau, et c'est quelque chose de... À la fois, on était... Bon, Roubaix, c'était une grande précarité. Mais en même temps, c'était quelque chose, des choses précieuses qu'il fallait garder. Donc moi, j'ai gardé ça, j'ai gardé ça en moi, quoi. Et voilà, j'ai grandi dans le quartier où il y avait les Courets, c'est l'ancienne cité textile, hein, tout ça, c'était ça, Roubaix, c'était une ville ouvrière. Et voilà, après, je pense que j'ai gardé ça inconsciemment en moi, dans ma musique. Et puis voilà, après, tellement de choses à dire. Mais...
Tous ceux qui ont grandi à Roubaix ne sont pas devenus musiciens quand même.
Il y a une paire d'artistes à Roubaix. Hein. Il y a beaucoup d'artistes, mais pas forcément des artistes conventionnels. Mais moi, je disais, mon père était marchand de fruits et légumes. Et je disais, pour moi, c'était un saltimbanque. Parce que je le voyais, tu vois, les marchés d'antan, toc toc badaboum, oui madame, oui monsieur, toujours à raconter une petite histoire, toujours, voilà, presque, je vais pas dire à jongler avec les fruits, mais presque, quoi. C'était vraiment, c'est comme un numéro, quoi. C'est comme une scène, et c'est la scène de la vie, quoi. C'est la scène aussi des gens qui se racontent leurs histoires, qui sont heureux de transmettre un peu de joie, un peu de bonheur, voilà, des petites choses. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est les gens qui font des petites choses. Quand vous dites, ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais avec peu de choses, des fois, on peut créer du beau, quoi. Et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a animé. Après, j'avais aussi de la révolte en moi, hein, gamin. J'avais aussi de la rage aussi, hein, mais je l'ai gardé parce qu'il y a des choses qui nous révoltent. Il y a des choses, enfin voilà, une demi-heure, une heure, si tu me racontais des choses, voilà, des choses que tu as vues, que tu as faites.
Injustice.
Ouais, des injustices, il y a des choses, pareil, tu parles des déserteurs, comment on les a traités, comment ceux qui pouvaient être, comme tu dis, l'histoire 30 ans, 50 ans après, elle dit qu'ils étaient dans le juste, mais sur le moment même, c'était des délinquants, c'était des terroristes, c'était des complices, des criminels, etc. Jaurès qui s'élève contre la guerre 14-18, bon, bah, on le bute, on le laisse se faire buter, voilà. Je pense que
c'est... Tu as pu faire des études quand même?
Ouais, moi j'ai pu faire des études, ouais.
C'était pas un peu compliqué.
Bah, moi, comme j'allais au marché avec mon père quand j'étais gamin, alors, tu sais, il fallait compter le calcul mental pour faire les additions, quoi. 1 kg de tomates, 3 kg d'oranges, 1 kg d'oignons. Donc en maths, je m'en sortais bien. Ben après, en français, c'était plus compliqué, mais rien qu'avec les maths, ça va, j'ai pu faire une percée dans l'école.
Je me permets une question.
ton lien à toi avec la guerre d'Algérie? Est-ce qu'il y en a un dans ta famille?
Ah oui, il y en a. Bah, c'est, tu sais, nous, nos familles, c'était, y en a plein. Je pourrais te raconter plein d'histoires. Moi, j'ai, mon grand-père, il était garde champêtre. Lui, il était justement, il confectionnait des vêtements, tout ça, avec la laine, avec. Et donc lui, il faisait les vêtements. Il a apporté des vêtements pour les moudjahides, cachés dans les montagnes, etc. Bon, il s'est fait attraper par l'armée française. Il a été torturé avec trucs électriques, l'eau, machin, tout ça. Lui, mon oncle, bon, et après ils sont venus en France. Moi, mon père était en France. Voilà, c'est notre histoire, qui était orphelin, qui est venu en France pour travailler. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve en France, où tu avais même en France, c'est-à-dire, lui, il travaillait, était marchand de fruits et légumes, donc, où tu avais la guerre entre le FLN et le MNA. Tu connais cette histoire-là. Donc, mais où des gens, quand ils étaient algériens ou d'origine algérienne, il fallait qu'ils prennent position, ou on leur faisait prendre position. Et lui, il se retrouvait, parce que c'était en bas de là où il habitait, il se retrouvait dans un café pour prendre son café le matin avant d'aller travailler au marché. Donc c'était un café. Je crois que c'était un café plutôt tendance MNA. Pour lui, ça n'avait pas une grande importance. Et puis là, t'as les autres qui débarquent et qui mitraillent tout. Et donc moi, j'ai grandi avec mon père, il y a la balle qui lui avait traversé le truc. Donc on a tous été touchés. Et dans nos familles, ouais, en France, ouais. Et dans nos familles, je te parlais de mon grand-père, mais il avait son frère ou son cousin qui, l'un à un moment donné, a donné des renseignements parce qu'on l'a menacé de ceci, l'autre cela. Donc c'est des histoires très très complexes. C'est des histoires très très complexes au sein même des familles. Moi, mon grand-père, il aidait les Moudjahidines et son frère, bah, lui, il était plutôt de l'autre côté. Donc c'est une histoire tellement complexe et tellement tellement dur. Moi, ma mère, ce qu'elle me raconte de la guerre d'Algérie, donc nous, c'était vers Palestro, tout ça, qu'habitaient mes parents. Donc c'est là où
ça pétait le plus.
Ouais, où ça pétait le plus. Et donc à un moment donné, il y avait eu une opération, enfin les Moudjahides avaient fait quelque chose, je sais plus quoi, et donc représailles de l'armée française. Donc ils bombardent le village. Et donc moi, ma mère me raconte ça quand elle était petite. Donc, et c'est, enfin, j'allais dire, c'est, non, c'est pas drôle, mais elle le raconte avec beaucoup de détachement. C'est ça qui est extraordinaire, que moi je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que après, ma mère est venue habiter en France. Elle a vécu 50 ans en France. Elle a sa vie ici. Et donc d'arriver à raconter ça avec autant de détachement, où elle dit, bah, y a ta grand-mère qui prenait, elle et ses frères et sœurs, et qui les faisait courir parce qu'ils allaient se réfugier dans une grotte un peu plus bas. Et puis là, il y a une bombe qui tombe pas loin. Ma mère, qui était gamine, elle tombe, quoi. Et ma grand-mère qui prend ses frères et sœurs en disant « Non, elle est tombée, pour elle, elle était morte, quoi. » Et c'est quelqu'un qui la ramène plus tard, qui ramène ma mère à la grotte. Et ma grand-mère pensait qu'elle était morte. Donc, bon, voilà, donc on nous raconte ces histoires-là, quand je parlais de mon grand-père, la torture. Donc, il y a des choses douloureuses, il y a des choses très dures, il y a des choses... Et donc tout ça, moi je ne l'ai pas vécu, je suis né en 76 à Roubaix. Mais tout ça, c'est imprégné dans ma famille, même quand mes oncles, mes tantes me racontent. Mais la question, c'est, on ne peut pas oublier tout ça. Toi, tu ne peux pas oublier, enfin, ma mère, elle ne peut pas oublier.
Nous avons rencontré mon Moudjahidine qui nous a dit, on veut bien tourner la page, mais on ne veut pas la déchirer.
Et c'est ça. Mais il faut la tourner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, nous, je parle de nous qui avons... Moi, je suis né, c'était 15 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Donc 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 60 ans. Si on n'est pas capable aujourd'hui de se dire, aujourd'hui, avec les enfants de France et d'Algérie, d'écrire une histoire, déjà ici en France, avec nous, nos trajectoires différentes, nos déchirures, si on n'est pas capable, si on n'a pas envie d'écrire une histoire, de dire, maintenant, on a notre histoire à nous à écrire ensemble. Et la mémoire, c'est quelque chose d'important, mais si la mémoire t'enferme, si elle t'enferme, elle t'empêche d'écrire ta propre histoire, elle t'empêche d'avancer. Et il y a des gens, c'est là où on en revient, il y a des gens, ils veulent tirer là-dessus. Ils veulent pas qu'on écrive une histoire d'un nous aujourd'hui. Ce qu'on dit dans la chanson, quoi. Y a-t-il un nous que l'on peut inventer? Et là, il est temps qu'on avance.
Il est grand temps.
Moi, voilà, c'est ce à quoi je crois. Mais c'est vrai que toute cette histoire-là, elle est tellement... Il y a des moments... Moi, quand je vais en Algérie la première fois... et que j'ai mon cousin qui me parle, c'est encore une autre histoire, mais il me parle de mon autre grand-père du côté de mon père. Il me dit, mais tu sais que ton grand-père était un poilu de la Première Guerre mondiale. Et il me dit, si tu veux, quand tu repars là-bas, donc en France, j'ai toujours sa médaille. Si tu veux, peut-être que ça pourra te servir. Si tu veux, je te la donne. Donc, c'est ça, c'est notre histoire commune. Qu'on le veuille ou non, c'est entrelacé. Et donc, c'est fait de...
Il y a 130 ans, qu'on était en Algérie, qu'on le veuille ou non.
C'est fait de...
Donc, ça s'est mélangé, tout ça.
Il y a tout ça, il y a des... Voilà, moi je pourrais te raconter plein de ce que me racontait, des histoires que me racontait ma mère, des choses, à la fois des choses qui étaient révoltantes et d'autres petites histoires qui étaient de passerelles, voilà, avec les curés du village, enfin voilà. Donc il y avait beaucoup d'injustice, de choses révoltantes, d'incompréhension, de rage, de haine, mais il y avait aussi des histoires d'amour, de passion, il y avait plein de choses. Et puis après, il y a eu la guerre d'indépendance, et puis cette guerre, c'est fini. Et donc après, je veux dire, la France et l'Allemagne, ils sont partenaires, ils sont amis, et puis y a des couples franco-allemands. Enfin, et nous, en réalité, autour de la France et de l'Algérie, je veux dire, moi mes enfants sont métis, je veux dire, t'as des histoires d'amour franco-algérienne, t'as du métissage, t'as du mélange, t'as du partage, t'as du... Donc les gens, dans la vraie vie, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, et moi-même quand je l'ai vu à Roubaix, en tout cas le Roubaix dans lequel j'ai grandi, c'était vraiment ce Roubaix des Courrées, tout ça, où les gens étaient vraiment très mélangés. La page, elle est tournée depuis longtemps chez les gens, dans la vie de tous les jours. Malheureusement, il y a deux mondes. Il y a le monde, ce monde médiatique, avec des gens qui essaient de pousser cet antagonisme, qui en font un fonds de commerce, qui essaient de vivre avec ça, qui essaient de l'entretenir, qui essaient de... Et qui nous enferment, nous, dans une guerre sans fin. Et parce que le jour où eux, il n'y a plus personne pour les écouter, ils n'ont plus de fonds de commerce, et puis ils doivent fermer boutique. Voilà, vous savez de qui je parle, quoi, mais... Donc...
Comment on fait pour arrêter ça?
Ah,
ben
je sais pas.
Venu te
voir. Moi, je pensais que tu étais venu me voir pour me le dire comment on allait faire. Je me suis dit, bon, il y a l'ancien, il va me dire, bon, voilà.
Ça suffit.
Ben
il y a combien la guerre d'Algérie? Elle est finie en 62.
C'est 60 ans.
Eh ouais. Ça suffit, quoi.
Ben, ça, c'est...
Mais c'est pire quand même, le pire de tout, ça a été l'Ouest.
Oui, c'est énorme.
C'est eux qui ont voulu construire des CTS. Et qui aujourd'hui, à travers le Front National, la conserve encore.
Ouais, et puis c'est... Oui, il y a des... Nous ce qu'on fait...
Le pire de tout, ça a été l'OAS.
Mais c'est aujourd'hui...
Ah, aussi, bien sûr.
Oui, et aujourd'hui, il y a des personnalités qui parlent à la télé française, qui sont invitées tous les jours, qui sont même présentées à l'élection présidentielle, qui disent des saloperies, qui... On sent qu'ils sont encore pleins de haine et qu'ils sont encore...
Ils ont empêché de parler, ces gens.
On pourrait déjà soit se dire... C'est pas les empêcher, enfin les gens, moi je suis pas pour empêcher les gens de parler,
mais
d'offrir des tribunes. Si on parle
de pensées, mais quand
là,
même,
voilà, moi je voulais pas dire son nom, mais si on parle de Zemmour, d'Éric Zemmour, c'est matin, midi et soir dans tous les médias pendant 20 ans.
Oui.
Ça fait des dommages.
Ah, oui.
Et dans tous les médias, c'est à la télé, à la radio RTL, à la télé machin,
CNews,
BFM, machin, etc. Dans les journaux, Le Figaro, c'était France 2, à la télé c'était France 2.
Justement, pourquoi toi ou un autre, même pas. A pas le droit de parler comme ça pendant tous les trucs.
Les médias appartiennent à
ceux qui sont. Mais je sais très bien.
C'est le constat qu'on fait. Le constat qu'on fait. C'est que ce que je disais là, sur la chanson, là, notre rendez-vous, c'est le constat que je fais, c'est que nous, le discours qu'on tient, c'est étrangement pas un discours où on va nous inviter pour le tenir. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, très honnêtement, je sais pas pourquoi, soit un délit de sa gueule, j'en sais rien, je sais pas, mais ce discours-là, pour moi, je pense qu'il est important. Mais de toute façon, nous, on va continuer. On va pas changer, on va continuer. Mais c'est vrai que là où on touche, des fois où on touche 1000 personnes, 5000 personnes, hein, on aimerait en toucher 50 000, 500 000, parce que vraiment, moi, si je prends cette chanson-là, Un autre rendez-vous, pour moi, c'est une chanson fondamentale, parce que c'est dire, c'est un autre rendez-vous de nous avec notre histoire. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais on lâche pas. Nous, on a une autre chanson, c'est On lâche rien. Donc on lâche rien. Mais il faudra du temps, c'est comme ça. Mais... Et pendant ce temps-là, bon voilà, il y a des rencontres, il y a des ponts, il y a des belles choses, il y a des belles choses. Et donc, nous, on se raccroche à ça, à toutes ces belles choses. Parce que Si on voit que le négatif, on n'y arrive pas.
On arrête de suite.
Ouais, on arrête de suite. Et puis, ou alors on devient. Voilà. Ou alors on est aigri. Ou alors... Et nous, on essaie de tout faire pour pas être aigri, pour pas être mauvais, parce que ça voudrait dire qu'ils ont gagné sur nous, quoi. C'est-à-dire, nous, voilà, on reste optimiste.
Vous avez des emmerdes avec les pouvoirs publics.
Non, c'est. Moi, c'est pas une époque. En tout cas, je crois, hein, aujourd'hui en France, on n'est pas dans ce genre de ça n'existe pas, la censure en tant que telle. C'est une forme d'invisibilisation. Moi, c'est ce que je ressens, voilà. En tout cas. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui en France, on peut dire ce qu'on veut. Sauf que si ce qu'on dit n'est pas dans l'air du temps, on va dire, bon, on fait en sorte que ce soit pas trop entendu et qu'il y ait un plafond. Moi, je le ressens comme ça, qu'il y ait un plafond de verre et que nous, à chaque fois qu'on dépasse une certaine audience, on fait en sorte que, bon, qu'on
passe plus dans.
Au tout début, quand on faisait il y a 15 ans, quand on a débarqué, on arrivait encore à. Pas souvent, mais on arrivait encore à être dans les grandes radios, France Inter, etc. Bon, aujourd'hui, plus du tout, du tout, du tout, du tout. On a vu petit à petit les portes se fermer, et aujourd'hui, c'est fini, plus du tout. Et on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui ne nous connaissent pas, mais il y en a qui nous connaissent et qui pensent soit qu'on n'est pas fréquentable, je ne sais pas. Non, il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison de ne pas nous inviter, soit on est trop ceci, soit on est trop
France Inter, il y a toujours une invité. France Culture aussi. Ben, vous n'êtes jamais invité.
Non, mais même nous, même des fois, quand on, comme je disais, quand on a des attachés de presse qui vont frapper à la porte, on dit non, merci. Oui. Non, voilà. On n'est pas invité, mais même quand nous, on leur propose qu'ils nous invitent, ils disent non, ça ira. Oui. C'est comme ça aujourd'hui. Après, les choses peuvent changer. Après, voilà. Nous, bon, de toute façon, nous, on a rien d'autre à faire que de continuer notre petit bonhomme de chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, il y a une petite porte ouverte, on va y aller. Y a pas de... Parce qu'on pense que ce qu'on a à dire est important. Et donc
c'est important, oui.
Voilà. C'est un peu comme notre asso. Nous, ce qu'on aimerait maintenant arriver à faire, c'est qu'on ait un autre regard sur certaines anciennes de cette époque-là qui ne disent pas le discours justement que tu dis. Qui eux se remettent en question et se disent non, ce qu'on nous a fait faire, c'était pas bien, on n'aurait pas dû y aller. Et ça, on ne l'a jamais, ce discours.
Les trucs d'anciens combattants,
c'est pas du tout ça.
Bah oui, c'est dur. Hein. C'est dur de. C'est un combat, c'est dur de se remettre en question du tout au tout. Quand t'as fait des choses, si t'as fait des choses, au plus tu es allé loin, au plus ça va être compliqué de revenir en arrière. Et des fois, il y en a, c'est sur leur lit de mort. Des fois, il y a des. Moi, on m'a raconté des histoires, des fois, des gens, voilà, qui, vraiment, à la dernière minute de la dernière minute, disent bon, là, oui. Mais avant, c'est compliqué.
Massu l'a fait très, très tardivement.
Oui, mais voilà, mais c'est.
Il a fait bizarre la pensée.
C'est comme ça, c'est un combat de chaque jour.
Bon, écoute, on ne veut pas abuser de tant de temps.
Bah non, mais avec plaisir. Bon, tu restes pas danser ce soir? Bah alors, lui, il va ranger les jeunes à la maison, et puis il va revenir avec le smoking, tout ça, il va se faire beau.
Les rancunes sont des miroirs, nous avons tous nos raisons, nos parents gardent en mémoire l'abandon de leur maison, la nôtre elle est ici. Quoi qu'on puisse en penser, nous ne l'avons pas choisie, nous devons la protéger. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer, un autre rendez-vous, une histoire à inventer? Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer, un autre rendez-vous?
Ce dialogue était l'occasion pour nous de vous présenter l'association des 4ACG. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site www.4acg.org. Ce dialogue a été enregistré et mis en onde par Alexandra Josse pour Média Commun Occitanie, association membre de la 4ACG. Merci au chanteur HK pour cette rencontre et pour nous avoir permis d'utiliser cette chanson, Un autre rendez-vous.